Hé hey André le baroudeur, je t'allume le rouge, les micros sont ouverts, tu as l'antenne. Allez, vas-y mon gars, t'es sur Radio Judaïka.
Merci mon bien cher Lucas, merci Filmholz. Avant de démarrer cette saison 2, la nouvelle grille de rentrée, je voulais remercier cette flamboyante radio de me refaire confiance pour une nouvelle saison. Fais-moi une place, le titre de mon émission a bien trouvé sa place. Soyez-en remerciés du fond de mon cœur. Sybille, Valérie, Thomas et Lucas... Et à tous ceux qui m'écoutent. Lucas, envoie-moi le générique. Allez, c'est parti.
Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet.
Bonjour les autres, salut Pissom, ravi de vous retrouver, les grandes oreilles. On garde les mêmes horaires, le mercredi à 11h30 et le dimanche, rediffusion à 12h30. Comme d'hab, vous savez, vous m'avez vraiment manqué, je suis très très heureux de vous retrouver et de vous présenter chaque semaine un nouvel invité, de s'asseoir sur le rebord du monde, on papote, on se découvre, on ouvre son âme et son cœur. Et pour cette rentrée, mon tout premier invité, c'est une belle personne. Il aime la nature, il la modèle, l'embellit souvent. Il connaît le langage des arbres, le bruissement des feuilles, d'un chêne, d'un érable, d'un tilleul. C'est fascinant d'être à l'écoute de la nature. Alors bonjour mon premier invité, peux-tu te présenter ?
Bonjour, je m'appelle Yves Wurtz, je suis ingénieur paysagiste.
Je suis ravi de partager ce moment avec toi aujourd'hui à Radio Judaïka.
Le plaisir est partagé.
C'est pour moi aussi. Alors, tu as beaucoup de respect pour Dame Nature ?
Oui, bien sûr. Du fait du métier, bien entendu, mais surtout que c'est d'actualité, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir des paysages. On en prend plus conscience aujourd'hui qu'il y a encore quelques années, tant mieux. Mais il y a beaucoup de travail à faire.
Dis-moi, la nature, en fait, la nature n'a pas besoin de l'homme, mais nous, on a besoin de la nature. Sans elle, on ne pourrait pas vivre. Tu es d'accord avec ça ?
Je pense que c'est même indispensable. On ne pourrait même pas respirer.
Sans les arbres, sans les fleurs, arbres, sans l'herbe, sans tout ça. Alors dis-moi, la nature, ça vient d'où ? Ta maman te biberonnait au pied d'un arbre déjà, Yves ?
Ah non, pas du tout. C'est venu un peu, enfin sur le tard, donc je devais avoir 15 ou 16 ans. Et un jour, j'ai visité une jardinerie avec ma maman. Et puis
elle te donnait la main ?
Non, quand
plus
même
à 16
pas,
ans.
Plus
oui.
À 16 ans, je pense pas. Et au moment de sortir de la jardinerie, j'ai dit à ma maman, j'ai dit, écoute, c'est ça que je veux faire.
Et s'occuper de la nature.
S'occuper de la nature, faire ce métier, voilà, en faire un métier.
En fait. En faire un métier, mais en fait, tu es devenu ingénieur, paysagiste,
oui,
architecte de la nature.
Alors en fait, oui, j'ai fait un brevet de floriculture d'abord,
ouais,
puis après je suis passé au paysage. Et ensuite, à l'urbanisme.
Donc, tu connais tout le nom de toutes les petites fleurs, tout ça ? Tu connais presque tout ?
Ce serait prétentieux, mais j'en connais quelques-uns.
Ouais. Commençons un petit peu par parler des arbres. Un arbre, c'est majestueux. Il peut attendre 35 à 40 mètres à sa maturité. C'est incroyable, comme c'est presque la hauteur d'un immeuble.
Dans Strasbourg, il y a quelques endroits où tu as des arbres qui dépassent les immeubles. En fait.
Qui sont des arbres remarquables ?
Ouais.
C'est quoi un arbre remarquable pour toi ?
Un arbre remarquable, c'est déjà, c'est souvent, en fait, c'est un arbre qui a une belle stature, qui est grand, qui est beau.
Comme toi à peu près ?
Oh là, ce serait prétentieux. Mais disons, on est en admiration. Et on ne sait pas pourquoi, mais on admire l'arbre. Parfois, tu as des arbres tout tordus, mais qui attirent l'œil.
Ouais.
Ça, c'est pas mal. Ou alors la floraison.
Hein. Et il y en a à Strasbourg, des arbres remarquables.
Tout à fait,
il y en a 80, je crois. Je
oui,
sais qu'il y en a à peu près une centaine. Et dont à la place Goethe, là, les érables, les grands platanes, là, ceux-là, ils sont remarquables. Ouais. Et alors, Tu sais, un platane, regarde ici, à côté du jardin, là, les Comtades, il y a des platanes qui sont magnifiques. Les érables, ils sont gigantesques. Ils ont quoi, d'après toi? Ils ont 150-200 ans?
Oui,
ils sont énormes.
Oui, selon les essences, certaines essences poussent plus vite que d'autres, mais effectivement, oui, bien sûr.
Et ça grandit toujours. Ça a une maturité jusqu'à quel âge? Un arbre est
mort? Il faut être conscient qu'un arbre, ça naît, ça vit et ça meurt, comme les humains. Ça met beaucoup plus de temps. Mais il arrive un moment où, voilà...
Quand le bûcheron arrive avec la tronçonneuse, tu veux dire?
Peut-être pas. Certaines essences ont une durée de vie de 50, 70 ans. D'autres, 300, 400 ans, voire même plus. Pendant le séquoia, ça, c'est plusieurs milliards d'années.
Oui, milliards d'années. Qui n'a peur de personne, enfin, même pas d'une guerre ou autre, des centrales nucléaires. J'ai entendu qu'un séquoia peut vivre très très longtemps.
Oui, oui. Les plus beaux exemplaires sont au Canada ou aux États-Unis.
Voilà, dans cette forêt de séquoia.
Ouais, tout à fait.
Et alors, parle-moi un petit peu du bruissement. Les arbres d'après toi, ils se parlent, ils se comprennent, ils s'entendent?
Alors, je pense qu'il doit y avoir un langage. On n'a pas encore réussi à le trouver, mais il doit certainement exister. Il existe une osmose entre les arbres. Comment ils se parlent, j'en sais trop rien.
Et ils vont tous vers la lumière, non? Ils veulent tous grandir. C'est la lumière, le soleil qui les attire, la luminosité?
Souvent. Pas tous. Parce que tu as des arbres aussi qui poussent très bien à l'ombre, mieux à l'ombre qu'au soleil d'ailleurs. Tu as des essences qui sont plus faites pour les zones ombragées. Mais effectivement, oui.
On va peut-être tout simplement se reposer un tout petit peu les oreilles, écouter une petite musiquette. Là, qu'est-ce que tu en penses, Lucas? Mais vous voir un petit peu le vent nous emportera. Jolie chanson, hein, le vent nous emportera. Et dis-moi, le vent, je parlais du vent et de la chaleur. Cette année, cet été, il y a une chaleur torride. Les arbres, ils ont souffert de la chaleur.
Tout à fait. Alors, les arbres...
Comment il réagit, l'arbre, quand il t'a fait de la manche chaude, 38, 40 degrés, qu'on a eu cet été, les chaleurs incroyables?
Un arbre a besoin d'eau. Donc, quand on est dans des arbres de grande taille, bien souvent, ils peuvent aller très profond pour aller puiser de l'eau.
Parce qu'ils ont les racines, l'assiette de l'arbre, c'est profond?
Ça peut aller jusqu'à plusieurs mètres.
Quand mais pas un sapin. Un sapin, une assiette.
Non, c'est plutôt
des trucs plats.
Des racines horizontales.
Ouais.
Mais quand il n'y a pas d'eau, on voit ce qu'on constate dans les forêts actuellement, des zones de dessèchement, des arbres qui meurent.
Le Waldsterben.
Ils appellent le Waldsterben. Ouais. Mais en fait, ce qui se passe aussi, c'est que quand ils ont un défaut hydrique, c'est-à-dire qu'ils manquent d'eau, ils sont plus sensibles aux maladies, aux insectes et aux parasites. Et donc, ils passent la main gauche beaucoup plus rapidement.
Est-ce qu'un arbre, il se sépare de ses feuilles avant de mourir? Ou comment il fait l'arbre quand il n'y a plus assez d'eau pour les feuilles et pour le tronc? Est-ce qu'il libère les feuilles? Est-ce que les feuilles partent plus tôt qu'en automne?
Oui, dans une certaine mesure, elles se dessèchent. Il n'y a plus d'eau, elles se dessèchent. Mais il faut savoir que la feuille est quand même... Un des outils principaux pour faire l'échange entre l'air, l'humidité et la plante.
Ah, tu veux dire pour nous, pour l'humain, cette humidité?
À la fois pour l'humain et pour l'arbre lui-même.
Oui. Ouais,
c'est-à-dire que lorsque tu as des arbres, quand tu as une série d'arbres, tu as un échange qui se fait. On a de l'évapotranspiration, donc ils rejettent de l'eau, et il y a des courants d'air qui se provoquent. Souvent, quand on est sur un chemin, et à un moment donné, on passe dans une frondaison, sous des arbres,
ouais, ouais.
on dit, tiens, il fait beaucoup plus frais.
La fraîcheur, on sent la fraîcheur.
C'est pas parce qu'on est à l'ombre, c'est simplement que l'arbre lui-même dégage une certaine humidité, une certaine...
Ouais.
De l'air, de l'humidité, enfin de l'oxygène.
Et est-ce qu'on les protège aussi, les arbres? Je sais qu'à un moment, on en avait parlé, il y a beaucoup d'enrobés. L'arbre, il est un petit peu... Il est un peu emprisonné dans le macadam ou dans les pavés, tout ça. Alors, ça, c'est pas correct, ça.
Non. C'est-à-dire, nous, ça fait 30 ans qu'on dit ça, qu'il faut éviter la partie minéralisation, limiter la partie minéralisation. Dieu merci, on nous a enfin entendus après de nombreuses années. Et aujourd'hui, il y a une politique qui est dans les communes, où on a pas mal de projets aussi de ce type-là, où par exemple les cours d'école, on les transforme, on remet des arbres, on met des espaces verts, on met des...
Mais vous ne mettiez pas du macadam jusqu'au tronc d'arbre?
Non, surtout ça, pas, c'est... parce que le problème, il faut savoir qu'un arbre, lorsque tu as ce qu'on appelle le houppier, c'est-à-dire la partie branche,
ouais.
En fait... La surface racinaire est égale à la surface foliaire. C'est-à-dire que si tu as un arbre qui a, je ne sais pas, moins 10 ou 15 mètres de diamètre, grosso modo, en dessous, on doit retrouver à peu près, normalement, quand il est à une croissance normale,
d'accord.
On doit retrouver à peu près la même chose. Par contre, en ville, c'est rarement le cas, parce qu'il y a des réseaux partout, et puis souvent, bien que l'administration, enfin, quand je dis l'administration, c'est-à-dire les services techniques, demandent souvent qu'on fasse des fosses très importantes pour justement...
Que les racines se développent.
Voilà, que les racines se développent.
Alors, j'ai aussi remarqué quelque chose depuis très peu de temps. Les jeunes arbres qu'on a plantés dans notre ville de Strasbourg, d'abord, on peint les troncs en blanc et après, on leur met des sacoches comme ça au pied des racines. Alors, je me posais la question, ça sert à quoi, ça? Tu sais, de mettre comme une sorte de plastique autour sur une cinquantaine de centimètres de haut, là, t'as déjà vu ça?
Il y a plusieurs solutions. Parfois, c'est des protections des racines, mais à la fois, ça protège ce qu'il y a autour. Ah. C'est-à-dire, souvent, quand on a ce sont des films anti-racines pour éviter que les racines ne se développent lorsque tu as des réseaux, des choses comme ça.
D'accord. Hein.
Et le fait de peindre les troncs en blanc, ça, c'est une protection.
Contre les insectes, les parasites?
Pas seulement, c'est aussi dû à la forte chaleur. Alors dans le temps, on faisait ça avec avec de l'osier ou des roseaux. On protégeait le tronc tout simplement lorsqu'il y a, en hiver, on risque d'avoir des éclatements par le gel et le dégel.
D'accord.
Et donc ça tempère un peu et cette peinture blanche.
Tu veux dire un peu, c'est comme nous les hommes, quand on se met contre le soleil, de la crème solaire, c'est une crème solaire qu'on a mis.
Oui.
C'est intéressant quand même. Alors dis-moi Yves, toi qui connais bien les arbres, est-ce qu'il y a des arbres qui résistent mieux à la chaleur que d'autres, que des feuillus? Je pense par exemple, en Afrique, bien sûr, on a les baobabs ou les palmiers ou tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on peut planter chez nous ici en Alsace ou même en France pour des arbres qui souffrent plus de la chaleur, quoi?
Ils souffrent moins de la chaleur. Ils souffriront, ne souffriront plus, je n'y crois pas vraiment, mais ils souffriront moins. Mais en fait, on est en relation avec des pépinières européennes qui sont en train de trouver des variétés qui vont permettre une reprise facilitée, en fait. C'est-à-dire que quand on va planter, ils vont présélectionner des arbres qui tiennent mieux en milieu urbain que les...
Et lesquels, t'as une idée d'arbres?
C'est certains platanes, certaines variétés de platanes, d'érable, de tilleul. Hein. Après, il y a d'autres...
Qu'est-ce que ça sent bon quand tu passes sous un tilleul?
Ah oui,
en été, là, c'est extraordinaire. Ça sent... Il y a une odeur, c'est génial.
Ouais, c'est des floraisons, c'est vraiment chouette. Par contre, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on voit apparaître des arbres qui remontent du sud, voire des micocoudiers, des choses comme ça, qui sont des arbres qu'on a jusqu'à présent vus dans le sud.
Ouais.
Et on les voit aujourd'hui qui poussent très bien, des mûriers.
Des citronniers peut-être un jour, des ananasiers
ça peut... Je ne souhaite pas, parce que ça veut dire qu'on aurait plus d'hiver, et ça,
oui,
c'est dommage.
Ça, oui.
Ça, c'est un avantage quand même, mais je pense, effectivement, on voit apparaître des choses comme ça.
Et alors Yves, bien sûr, tu en as fait ton métier, tu es une sorte de cueilleur de nature, tu es devenu ingénieur, architecte, paysagiste. Parle-moi un peu de ton métier, là. Comment... est-ce que c'est un vrai métier, ça? Parce que c'est que du bonheur, ça, de s'occuper de la nature.
Alors d'abord, c'est un métier passion. Ça, faut être clair.
C'est ta maman qui t'a amené chez l'horticulteur et c'est...
Oui, et puis après, c'est la rencontre avec des gens aussi qui ont fait que ça a évolué. Et dans ce métier, il y a vraiment de très belles personnes qui qui ont envie d'apprendre aux autres. Et franchement, oui. Et il ne faut pas être... faut pas être avare de conseils, quoi. C'est-à-dire, faut regarder ce qui se passe.
C'est quoi un architecte paysagiste? Ça veut dire comment ça se passe? Comment tu travailles pour des collectivités, pour des parcs publics? Oui. C'est-à-dire, c'est toi qui vas dire à l'orangerie, on va mettre tel et tel arbre là et là. Peut-être pas l'orangerie, mais
l'orangerie, non, puisqu'ils ont leur propre service.
Ouais, c'est ça.
Compétent, donc on va pas forcément.
Mais,
aller,
mais tu
ça m'arrive de travailler un petit peu
avec eux de temps en temps.
De temps en temps, donc avec les services techniques. Mais disons, c'est souvent les communes. Qui n'ont pas de services techniques, qui font appel à nous, puisque, bon, ben, ça, comme tu disais, c'est un métier. Donc, voilà.
Mais tu mets quoi? De l'herbe? Tu mets des arbres? Tu mets des fleurs?
Des fleurs, des arbres, des buissons, en fonction de l'usage.
Et comment tu sais que tout ce petit monde vit ensemble, les fleurs, les arbustes, tout ça? Ça, il faut connaître déjà.
Oui, bon, il y a un peu de métier derrière, il y a plus de 40 ans de métier. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que parfois, il faut savoir apprendre de ses erreurs aussi. Parce qu'il y a des choses que j'ai faites et que je suis repassé derrière, je me dis, mon Dieu, c'est moi qui ai fait ça. J'ai vraiment un peu loupé mon coup. Mais il faut savoir aussi dire, bah tiens, ces plantes-là, ça ne marche pas ensemble.
Ça ne marche pas, oui. Ouais. C'est comme les humains, quoi. Il y en a qui ne se supportent pas, quoi.
Hein, bah, c'est à peu près ça.
C'est la même chose.
Il y en a un qui domine l'autre.
L'autre, quoi, ouais, fait, ouais, ouais. Et alors, tu parles à l'instant de ce que tu as fait. Je sais qu'à un moment, tu t'y es occupé des jardins familiaux, rue de la Fourmi. Il y a très longtemps.
Il y a très, très longtemps.
C'est là que je crois que je t'avais une fois rencontré lors d'un reportage, il y a une quarantaine d'années, si on peut dire, ou 35.
Oui, on ne doit pas être loin de 40.
Tu installais des jardins familiaux, en fait.
Oui, je faisais partie des services de la ville à l'époque et je dessinais les jardins familiaux pour le compte de la ville, effectivement.
Ouais. Et puis, il y a quelque chose qui marche. Hein. Je crois qu'il y a 5000 jardins familiaux à Strasbourg, dans la CUS. Hein.
C'est encore, énorme. Il y en a certains qui ont malheureusement disparu, bon, pour des raisons d'urbanisme. Mais oui, effectivement.
Pour mettre des lotissements, tu veux dire?
Pour faire des routes. Dans le temps, il y en avait un qui était au parc du Rhin. Je ne sais pas si tu te souviens, le long du Rhin, qui a disparu.
Ah oui, d'accord.
Hein, bon, bah, après, il y a eu les jardins des deux rives. Donc, tout ça, ça a mis Et puis après, c'était des jardins qui étaient très loin de la ville, donc souvent vandalisés, des choses comme ça.
Ouais,
donc
c'est vrai que ça arrive aussi. Ouais.
Malheureusement, ça arrive aussi.
C'est noble de s'occuper de la nature, Yves. C'est un métier noble.
Oui, je pense, oui. Ouais.
Bah écoute, on va écouter un peu de musique. Lucas, mets-nous voir la petite musique numéro 3 pour ramener une autre séquence. Alors, je te vois sourire. Tu souris? Alors, parce que Roger Siffert, Fomfilertol, était ton pion au lycée. Raconte-moi
ouais,
ça un
au
peu.
Au collège, en fait, oui, j'étais au collège et j'avais...
Mais à quel endroit? À quel endroit?
À Villers.
Ouais.
Au collège de Villers. Et en fait, j'avais un surveillant qui s'appelait Roger Siffert.
Un pion,
l'époque.
Déjà chevelu à l'époque, avec ses petits gilets.
Oui, le petit gilet, je ne sais pas s'il l'avait déjà à l'époque, ou peut-être. Mais... Et en fait, Roger, c'était d'abord quelqu'un d'assez génial, il faut être honnête, et qui a défendu et qui défend encore aujourd'hui notre langue alsacienne.
Et il te parlait en alsacien dans la récré?
Oui, mais moi je suis un alsacien pur souche, donc ça ne me posait pas trop de soucis.
Il ne te cassait pas la gueule à la récré?
Ah non, pas du
comme
tout.
Comme Souchon
non. Et en fait, je fais un peu de musique et c'est grâce à Roger qui m'a mis le pied à l'étrier à l'époque.
Parce que tu es musicien?
Je suis musicien, oui.
Tu joues de quel instrument?
Alors, je joue de la batterie depuis un certain nombre d'années, oui.
Ah ouais, et comment tu t'es... Comment ça se fait que tu joues de la batterie?
Oh, ça s'est présenté comme ça. Je faisais des petites animations musicales avec des copains. Et un jour, Roger a dit, bah, écoute, dans 3 semaines, on enregistre, voilà ce qu'il faut jouer.
Mais tu avais des notions quand même de batterie?
Non, j'étais à l'époque totalement autodidacte.
Mais tu avais le rythme dans la peau quand même?
Oui, il faut croire, oui.
Parce que sinon, tu ne peux pas jouer de la batterie.
Oui, ça c'est vrai, ça aide quand même. Oui,
et c'est vrai que la batterie, c'est quand même un instrument qui fait respirer la musique, je trouve. C'est un complément, c'est...
Oui,
c'est pas que deux baguettes avec une pédale.
Non, c'est une base, en fait. C'est principalement une... Un batteur est au service des musiciens. Il ne doit pas être devant sur la scène. Bon, il y en a bien sûr des très bons qui sont devant, mais avant tout, c'est la section rythmique qui va assurer le morceau et la
ça embellit le morceau, tu veux dire ?
Ça donne une structure au morceau.
Une structure, ouais.
Ouais.
Et le musicien, le chanteur respecte le batteur, ouais. Il y a du respect entre vous.
Oui, ouais. Je pense, oui. Enfin, ceux avec lesquels j'ai travaillé.
T'as travaillé, oui. Et alors, au Gécifer, quelle quoi la période où tu as travaillé avec
lui ? Oh ben là, c'était assez débuts. Bien sûr, les miens aussi, mais c'était assez débuts. Ils faisaient des petites. On allait dans quelques endroits. Il y avait Roger Siffert, François Brumt aussi.
Ah oui, c'est connu, connu, ouais, François. Ouais.
Et en fait, donc ils tournaient ensemble et puis on les accompagnait avec deux copains encore.
Donc t'as dû rigoler tout le temps, non? T'as dû t'amuser tout le temps.
Je peux te dire que on sortait du collège et Roger, il avait une vieille 4 chevaux. Enfin, c'est comment c'est les.
Ah ouais, les 4 chevaux.
On jetait le sac derrière et puis en avant, on allait chez Anne-Marie chez le bar.
Ouais, la chanson qu'on a entendue à l'instant, c'est Anne-Marie.
Tout à fait.
Ouais, c'est joli ça.
Ouais.
Et donc t'as tissé une belle amitié avec Roger.
Oui, encore aujourd'hui. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que il a fait énormément de choses.
C'est quelqu'un d'important dans notre paysage alsacien.
Ouais,
hein, franchement. Alors, dis-moi, tu connais quelques batteurs célèbres, hein, des grandes stars. On va peut-être juste écouter un peu de musique, mais nous voir la 4 pour voir un petit peu Lucas. Mais nous voir la musique. Là.
Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz.
Yves, parle-moi un petit peu de Nougaro. Comment tu l'as rencontré, ce monsieur ?
Alors, j'ai rencontré Claude Nougaro il y a quelques années au Palais des Congrès à Strasbourg. En fait, je me suis lié d'amitié avec un batteur qui m'a donné des cours à une époque, qui s'appelle Loïc Pontieu, et qui est un des très bons batteurs français
encore aujourd'hui.
Encore
c'est
aujourd'hui,
pas quelqu'un qui joue avec Julien Clerc ou
Oui, Julien Clerc, il a joué avec Bruel.
Goldman.
Non.
Non, pas Goldman.
Qu'est-ce qu'il avait fait encore, Nougaro
Enfin, c'est quelqu'un de connu, en fait, sur la
il
place.
A fait, en général, c'est un très bon musicien de studio qui a une très belle technique. Et en fait, il jouait à Strasbourg et il m'a dit, écoute, si tu veux, tu viens au concert. Au concert.
Ouais.
J'ai pas dit non. Hein.
Ouais, ouais.
Et du coup, il m'a fait rencontrer en off Nougaro.
Dans les coulisses, derrière, après le concert.
C'est un grand moment, quoi.
Ah ouais, c'est
vraiment un grand moment. C'est une personne, en fait, elle parlait comme elle chante. C'est-à-dire à double mot, avec des sous-entendus. Et
Il parlait en rime ?
Non, pas forcément, mais en sous-entendu. Et ça, c'est.
Ah ouais.
T'as intérêt à bien faire attention pour.
À ce qu'il raconte.
Ouais, ouais. Non, mais c'est vraiment un grand moment. Quoi.
Et c'était un monsieur accessible ?
Tout à fait.
Ah
tout
ouais.
à fait. Tout à fait.
Et après, tu l'as côtoyé encore quelques temps après ?
Non, après, c'est bon. Après, donc ils sont retournés, tout ça. Donc même mon copain, quand j'ai du mal à le joindre, parce qu'il est tout le temps sur la route.
Voilà, ouais. Tout à fait, et ouais. Il a à peu près tes âges, nos âges.
Loïc, on est né le même jour, à 10 ans d'intervalle.
Ah ouais,
il
d'accord.
Il est 10
ans
plus jeune que moi.
Ouais, ouais. Et t'avais pas envie de faire cette carrière de musicien, de batteur, de
J'aurais
travailler.
Bien aimé, mais à l'époque, je voulais faire le conservatoire, et puis mon père a dit, c'est pas un métier. Est-ce qu'il avait raison ou il avait tort? Je n'en sais trop rien. Disons, aujourd'hui, ça m'a permis de faire le métier que je fais aujourd'hui, et ça, c'est super.
T'es content de ce que tu fais aujourd'hui?
Oui, tout à fait.
Après, et je crois que ton papa, il avait aussi il travaillait dans un endroit assez somptueux. Hein. Vous habitiez dans un endroit à Strasbourg.
Ah oui, alors nous, on a. Alors
Je suis avec les beaux, on peut le dire.
Ah oui, je suis un vrai Strasbourgeois.
Ouais.
Je suis né à la Cruteneau.
De Krutenau, ouais. Bah ouais. La Krutenau, bon, qu'est-ce que ça
Voilà, tu peux dire ça, parce qu'à l'époque où je suis né, la Krutenau n'était pas ce que c'est aujourd'hui.
Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, c'est un quartier bobo. Hein,
et en fait, j'habitais dans la maison qui se trouve dans l'école des Beaux-Arts. Il y avait une maison, c'était pas une maison de gardien, mais qui était sur le terrain de l'école des Beaux-Arts.
Quand tu rentres à droite, là, tout de suite
quand tu rentres à gauche.
À gauche, ouais, d'accord.
Une petite maison.
Ouais.
Et en fait, on a... Mes grands-parents habitaient pas très loin, et du coup, voilà.
T'as grandi là-bas, quoi.
J'ai grandi là-bas.
Ouais. Ouais. C'est les Beaux-Arts.
C'est les Beaux-Arts.
Ouais. La façade est magnifique.
La façade est magnifique.
Ah, ouais, c'est
bien sûr.
Et t'as rencontré plein de gens à ce moment-là.
Oh, non, j'étais encore petit, hein, donc je savais pas encore trop ce que je voulais faire, donc du coup.
Donc c'était ton terrain de jeu, quoi.
Voilà, un peu.
Où t'as joué à Thierry Lafronde et à Cache-Pacouille.
Des choses comme ça. Ouais.
Lucas, on va écouter un autre petit morceau de musique. avec toujours avec Nogara. Ah, tu verras, mais nous voir ça un petit peu.
Ah, tu verras, tu verras, tout recommencera, tu verras, tu verras. L'amour c'est fait pour ça, tu verras, tu verras. Je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon.
C'est beau de finir avec tous les rêves du monde, hein. C'est joli. Hein.
Tout à fait.
Quelle belle poésie ce monsieur quand même. Hein.
Oui,
hein. Il a fait une belle carrière aussi. Il a eu quand même quelques petits problèmes de temps en temps quand il a fait Nouga York ou ça. Je crois que son producteur voulait plus trop le voir. Et après, il est parti aux États-Unis. Il a fait Nouga York et ça l'a relancé.
Il a changé de maison de disque.
Ouais, qu'il a changé de maison de disque à ce moment-là. Et il a de nouveau explosé, quoi. Hein. Ouais. Quelle est un peu ta musique que tu écoutes quand t'es chez toi, quand tu veux un petit moment de...
Du jazz.
Souvent du jazz.
Oui. Ouais. Au grand désespoir de mon épouse, mais
qui n'aime pas ça, elle n'aime pas ça.
Pas qu'elle n'aime pas ça, mais bon, moi, j'écoute parfois des choses un peu que les gens n'ont pas l'habitude, comme du Metheny ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est pas toujours très abordable. Quoi.
Et c'est vrai que le batteur aussi a un rôle important dans, dans le jazz.
Là, il y a des summums. Hein. C'est des gens comme Steve Gadd ou Dave Weckl qui sont parmi les meilleurs batteurs au monde. Enfin, il y en a plein, mais là, c'est vraiment des énormes techniciens qui ont, je ne sais pas combien de centaines de disques qu'ils ont enregistrés, parce que justement, ils sont très demandés. Et d'ailleurs, Weckl, je l'ai vu avec Meistern à Strasbourg dans un concert, et c'était impressionnant.
Tu es toujours impressionné par le batteur, par la musique,
oui, alors,
ce qu'il dégage.
Oui, après, il n'a pas fait... C'est pas forcément... Enfin, bon, Weckl est un virtuose, ça, il est à part. Mais c'est pas forcément parce qu'il est... Moi, j'avais vu Steve Gadd il y a très longtemps. Et il a été très carré, très propre... Et ça, c'est impressionnant parce que c'est juste, ça colle pile poil.
C'est une technique.
Tout à fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est connu d'ailleurs.
Et dis-moi, Yvon, on va revenir un tout petit peu aux arbres parce que moi aussi, j'aime les arbres. Tu m'as pas parlé de ton arbre préféré. C'est lequel avec lequel tu peux t'asseoir sous un arbre, lire un livre, te détendre, regarder son feuillage.
Il y en a plein. Moi, le tilleul, c'est un de mes préférés. Mais il y a à Strasbourg un endroit absolument magique qui est 3 semaines dans l'année.
Ah ouais ?
À côté de la maison de la radio, il y a une place derrière la maison de la radio à Strasbourg, il y a une place.
Mais c'est la maison de la radio, tu veux dire la télévision française ?
Oui.
En couleur, là ? Ah ben c'est là où j'ai travaillé 40 ans, oui.
Oui,
sais. Je vois ce que tu veux dire.
Ouais, c'est les cerisiers en
fleurs. Les cerisiers en fleurs.
Il y a 3 semaines dans l'année, c'est absolument somptueux.
Ouais, c'est magnifique.
Moi, je considère ça comme un des plus beaux endroits.
Ah ouais.
Dans cette période-là, c'est absolument somptueux.
C'est très, très beau. Après, il y a aussi la place de la République, hein, où il y a ces Ginkgo Biloba.
Ouais, qui ont d'ailleurs failli passer à la tronçonneuse.
C'est pas vrai.
Ah oui,
mais pour quelle raison ?
Ah bah parce que le. Un ancien, mais je te parle de ça il y a une trentaine d'années, il ne les aimait pas.
C'est pas possible.
Et il voulait les faire couper. Et c'est Madame Flimelin à l'époque qui a...
Ah ben heureusement qu'elle était là. Heureusement qu'elle était là.
Parce que sinon,
ces arbres sont extraordinaires.
Oui, tout à fait.
Je crois que c'est même Goethe qui les avait plantés. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas.
Ça, je ne sais pas.
Ça, j'ai déjà lu quelque part, mais on ne sait pas. Donc, tu aimes bien ces arbres-là, le tilleul.
Le tilleul, et puis certains érables, certains platanes.
Le mélèze, par exemple, c'est aussi un bel arbre en automne.
Oui, alors c'est un des conifères qui perd ses aiguilles.
Oui, c'est ça qui est joli,
Qui est joli, il devient brun.
C'est joli en automne, c'est vrai, quand il a sa parure d'automne. Bah écoute, Yves, en tout cas, là, on a passé un super bon... Ah, j'avais encore envie de te poser une petite question, parce que tu m'avais dit un truc qui m'a vraiment impressionné, que tu aimes de temps en temps marcher pieds nus dans l'herbe. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte,
alors,
tout à fait.
Alors, si tu veux, c'est quelque chose qui existe dans d'autres pays. En France, on a un peu plus de mal avec ça, puisqu'on met souvent, quand tu te promènes dans un parc, pelouse interdite.
Ouais.
C'est une ânerie, excuse-moi.
Ça n'existe plus, ça, maintenant, le droit de marcher.
Merci, oui.
Malheureusement.
Mais en fait, avec les vêtements qu'on porte, on a énormément d'électricité statique.
Ah ouais ?
Et en fait, marcher pieds nus, dans un gazon, par exemple,
ouais.
Ça permet de décharger de ton électricité statique.
Tiens,
c'est un retour à la Terre. Tout simplement.
Ah ouais, ouais, ouais.
Mais au sens propre comme au sens...
Génial. Donc
et en fait, ça te permet justement d'enlever cette électricité que tu portes
En toi. Et ça vient des habits et tout ça.
Ah oui, donc, on a
extraordinaire. Ouais. Donc il faudrait marcher pieds nus et tout nus. Comme ça, tu n'as pas de pied.
Oui, enfin bon, après, non, ça choquerait certaines personnes.
Oui,
je
crois bien.
Mais,
en tout cas, voilà, on a parlé pendant presque 28 minutes. Là, c'était très agréable de te parler, d'apprendre des choses. La semaine prochaine, j'ai une autre personne qui viendra nous parler de métrage, de chiffon, qui est Cléone, qui viendra à ce micro. Moi, je pense qu'on se retrouvera très prochainement parce que tu as encore plein de choses à m'apprendre. Tu es dans de l'associatif et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Voilà, Lucas, on peut mettre le générique de fin. Je crois que l'émission se termine. Merci à toi d'être venu à la radio.
Merci. Au plaisir.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà,